Ma présentation s'appuiera sur deux éléments contextuels. Une première partie où je vais essayer un peu de revenir sur l'historique, en essayant de présenter les différentes périodes de l'entre le sida et montrer comment l'association AIDE s'est inscrite dans ces périodes-là et comment aussi la prévention a évolué par rapport aux différents contextes, d'une part. Sur la partie PREVS, donc je partirai sur une expérience qui a été construite par le groupe gay, ACSH, d'une part, et la manière dont on a décliné, pas forcément la campagne, mais le message. Ce qui est important là-dedans, ce n'est pas forcément la campagne en soi, mais c'est les messages qu'il y a derrière. Comment ça a été décliné au niveau des actions pour que nos acteurs, d'abord, puissent s'en saisir, d'une part, et en faire un outil de travail au quotidien avec les personnes. Alors, juste un petit mot sur l'association AIDE, où on est le 17 octobre aujourd'hui, je crois, si ma mémoire est bonne. Le 29 septembre 1984, Daniel Defer a adressé un courrier à des amis, juste après le décès de Michel Foucault, son compagnon, pour lancer la création de ce que deviendra l'association AIDE aujourd'hui. L'association AIDE est une association qui est basée sur des principes d'action assez forts. Dès la conférence de Paris, l'approche communautaire va devenir pour AIDE la doctrine de l'association, mettant les personnes au cœur des priorités de l'action. Un soutien aux malades, une mobilisation des populations, successivement, j'y reviendrai, et les plaidoyers pour la transformation sociale. Donc les acteurs de AIDE agissent non pas juste pour faire de la prévention, mais avec au bout une volonté de transformer l'environnement, partant de l'idée qu'on ne peut pas agir que sur la personne, à partir du moment où on crée un climat de confiance, un espace qui est prêt à entendre le discours de prévention et de vivre avec les personnes séropositives. La communauté de AIDE, quand on parle d'association communautaire, c'est à la fois la communauté des personnes séropositives et des personnes vivant avec le risque. Cette communauté a des sous-groupes, des sous-communautés, dont la population gay, l'usager des drogues, les migrantes, j'ai marqué ES, donc hommes et femmes, les travailleurs de sexe et très récemment la population transsexuelle qui a rejoint la structure. Les trois périodes du sida que nous connaissons, je ne crois pas tous ici, c'est d'abord la première période qui va de la... Enfin, je la situe au niveau de la création de AIDE, même si la découverte du virus responsable du sida s'est opérée plutôt une année à l'avance, pour présenter aussi comment AIDE s'est inscrit dans ses actions de prévention. Donc on est dans une période où on est plus tourné vers l'accompagnement des malades. C'est la période dite de cendre ou de plomb. C'est des actions qui tournent autour à la fois du soutien aux malades, du soutien aux familles, du soutien aux amis. La population homosexuelle est la première à être mobilisée. On est dans le contexte aussi des années 80 avec tous les discours qui étaient tenus sur l'origine à la fois du sida, d'autant plus qu'on avait identifié les premiers cas aux États-Unis qui touchaient essentiellement les homosexuels. La deuxième population à rejoindre AIDE sont les usagers des drogues. Cette période a été aussi un premier succès en termes de prévention autour de programmes d'échange de seringues. On s'est rendu compte avec une action de prévention efficace qui tienne compte de la spécificité des populations, on est arrivé à des résultats probants. La deuxième partie, la deuxième période qui part de 1996 à 2008, c'est deux dates qui doivent d'ailleurs vous parler. 1996, c'est l'arrivée des thérapies. 2008, sur les fameux AVS suisses, sur lesquels je reviendrai, sur l'impact que cela a eu dans nos actions, qui a été pour nous un changement des paradigmes de la manière de mener nos actions de prévention. Et la dernière partie, qui part de 2008, donc de ce contexte-là, jusqu'à aujourd'hui, où on parle éventuellement de fin de l'épidémie, c'est la grande question sur les stratégies à mettre en place et comment on décline la prévention combinée selon les populations. Les grandes évolutions de la prévention sexuelle par rapport à ces périodes. À l'origine, on avait un seul outil qui était le préservatif. Le discours, c'était autour du 100% préservatif. c'était des campagnes grand public, une façon de communiquer, mais qui ne tenait pas forcément compte des priorités des populations. C'était sans doute un outil créateur du lien pour pouvoir se poser, échanger avec les personnes, évaluer les degrés des connaissances sur le mode de contamination, c'est la manière de s'en protéger, mais sans plus. On ne parlait pas de l'essentiel. C'est aussi le discours qui nous faisait croire qu'on pouvait atteindre le risque zéro en matière de transmission. On s'est focalisé sur le préservatif sans tenir compte d'autres spécificités, d'autres déterminants qui agissent dans la vie des personnes. Et très vite, le préservatif a montré ses limites. Pour nous, à partir du moment où c'est un outil de lien, ce discours monotone a fini par créer une distance par rapport aux personnes rencontrées dans nos actions. Parce que le discours 100% préservatif avait ses limites. Ça créait une sorte de divorce entre nos acteurs sur le terrain. Au fil des années, si on part de 84, aujourd'hui en 2014, 30 ans, imaginez une personne qui était déjà en activité sexuelle il y a 30 ans en arrière, aujourd'hui c'est 30 ans d'usage du préservatif. On sait que avoir un discours unique pour toutes les populations, sans se poser la question sur les priorités de telle ou telle population, pour les personnes immigrantes, par exemple, dont on avait pendant très longtemps scamoté les données épidémiques pour des raisons qui pouvaient se comprendre autour des politiques par rapport à l'immigration, ces populations n'étaient pas du tout mobilisées. Et il y avait une idée reçue dans la communauté africaine que le sida, c'était bel et bien une maladie d'homosexuels blancs. Ils n'étaient même pas concernés. Et à partir du moment où le discours commence à passer, on se rend compte que pour les personnes, il ne suffit pas d'apporter un discours de prévention, mais aussi de s'assurer qu'ils pourront accéder aux soins et s'y maintenir. Le sida est une maladie sociale, mais c'est aussi un révélateur d'inégalités. Ce discours était-il approprié, par exemple, aux femmes, dans des rapports de genre compliqués, avec la possibilité de pouvoir être maîtresse de leur prévention? C'est toute la réflexion qui nous a fait montrer que le discours du 100% préservatif ne suffisait pas. Alors, fallait-il faire évoluer ce concept? Ça a été une vraie question pour nous, et l'amorce s'est faite aussi en 1996, qui était un retour à la vie pour les personnes, un retour à des projets de vie, à des projets de couple, et aussi, tout simplement, à l'envie de continuer à avoir une vie sexuelle. Ça a été une période aussi de controverses, controverses en interassociatif, sur ce discours de la réduction des risques qui était considéré comme une façon de décourager les gens à utiliser le préservatif. Il a fallu être clair là-dessus, que le préservatif restait le meilleur outil de transmission contre les transmissions du VIH et des IST, car le risque de transmission par rapport à d'autres IST était le même. Oui, les discours devaient évoluer, car ils devaient plus coller à la réalité de la vraie vie commune. Tenir un discours de prévention un peu comme un beau pasteur qui va vous dire « faites ce que je vous dis, mais ne regardez pas ce que moi je fais », c'est très facile. La discussion sur la réduction des risques nous a paru aussi un discours difficile qui compliquait l'action de prévention, qui ne s'arrêtait plus à distribuer un outil, mais en tant qu'acteur soi-même, à actualiser ses connaissances, d'établir une relation avec beaucoup d'humilité d'une personne qui est en face, qui parfois vous renseigne sur les pratiques. Ce n'est qu'en identifiant les pratiques à risque qu'on peut construire une réponse qui est en corrélation avec la vie sexuelle de la personne. Donc la RDR s'est imposée à nous un peu dans ce contexte-là, de cette réalité-là qu'il fallait évoluer, mais les débats étaient non seulement en externe avec d'autres partenaires interasso, mais aussi en interne de aide, parce que ce n'était pas non plus évident pour les jeunes acteurs qui arrivaient, malgré des sessions de formation initiale qu'on met en place, de maîtriser à la fois les discours et d'être sûr et certain qu'on ne donnait pas des informations erronées aux personnes qu'on rencontrait dans, sur le terrain de l'action. Cette réflexion nous a orientés vers cette notion de la prévention combinée. Je reviendrai un peu plus dans le contexte sur la manière dont on a décliné l'action quand je présenterai l'outil qu'on avait utilisé. Mais il était important d'abord qu'on se mette d'accord sur la place du préservatif. C'était aussi une forme de consensus entre les personnes dont c'était l'outil principal, l'outil des bases, entre les personnes qui pensaient qu'il fallait réfléchir différemment et tenir compte aussi de leurs difficultés à utiliser les préservatifs dans la durée, mais aussi penser sur toutes les avancées scientifiques qui étaient maintenant en place, comment on pouvait construire une action de prévention dans une stratégie de réduction des risques et qui intègre les outils existants aujourd'hui. Donc nous avons pensé tout simplement à la prévention combinée comme un élargissement de palette d'outils qui nous permettront de pouvoir se poser, échanger avec les personnes, discuter et parler beaucoup plus des pratiques. Le contexte de la campagne PREVS, quand nous l'avons construite, c'était une commande à la fois de l'Institut national de la prévention et l'éducation à la santé, l'INPS en France. C'était une façon de trouver la bonne articulation pour les personnes. Nous nous sommes appuyés à la fois sur la vie suisse, qui a été une bombe, soi-disant, mais pour nous qui étions habitués à accompagner des personnes séropositives au quotidien et de parler de la sexualité, nous savions que les gens, parfois, anticipaient tout simplement les choses. Donc cet avis a été une forme de validation de ce qu'on soupçonnait, mais quand il n'y a pas une preuve scientifique derrière, il n'est pas évident à la fois d'établir un dialogue avec les pouvoirs publics et pouvoir communiquer sans pour autant être contesté. Le deuxième élément, c'est le rapport Lert et Pialou. C'est deux scientifiques de renom en France à qui on avait passé la commande aussi d'avoir un regard à la fois distancié sur ce discours autour de la réduction des risques. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça a été une audition de plusieurs acteurs de lutte contre le sida, que ce soit des personnes migrantes ou des personnes homosexuelles, de manière à comprendre ce que cela recoupait en termes d'information et en termes de stratégie. 2008-2009, nous avions aussi fait un constat sur le dépistage en France. On s'est aperçu que beaucoup de personnes n'avaient pas la possibilité d'avoir de dépistage répété pour des raisons tout simplement de discrimination liées à leur orientation sexuelle. Nous avons aussi fait le constat que des personnes migrantes, souvent en situation irrégulière, n'avaient pas forcément l'aisance d'aller dans les services de dépistage, même si un travail de plaidoyer avait été mené en amont pour rendre ces centres à la fois anonymes et gratuits, mais il y avait encore de peur qu'il fallait surpasser. Donc on est arrivé sur un constat que le dépistage était insuffisant au niveau français. Et encore une fois, il a fallu aller rechercher un partenariat pour lancer une enquête, enfin carrément une étude, pour étudier à la fois la faisabilité et la stabilité d'un dépistage qui serait fait par de non-soignants. On avait ouvert de débats avec l'autorité de la santé à l'époque pour obtenir le transfert de quelques outils qui étaient considérés à l'époque, en tout cas comme des outils médicalisés, pour les faire basculer dans le domaine de non-soignants et en faire un outil démédicalisé. Le troisième constat, c'est simplement le CNES qui va valider l'étude La vie suisse et donner son avis sur la manière d'intégrer le traitement comme un outil de prévention. Les objectifs de cette campagne, pour nous, c'était aussi un retour aux fondamentaux de ce que nous faisions dans le passé avec cette approche communautaire où il fallait partir des besoins des personnes, les impliquer à tous les niveaux, construire les outils avec eux, tenir compte des échanges qu'il y a dans les listes de diffusion sur le remontée de terrain. C'est très facile, encore une fois, d'être dans son bureau derrière et d'élaborer une campagne et de se dire que ça devrait marcher. Mais quand on parle de besoins de personnes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. On analyse à la fois le contexte, la vie de la personne, d'autres déterminants qui agissent dans la manière dont on va se protéger ou pas. C'était une façon de construire une meilleure information pour les personnes, en utilisant le jargon. Dans la communauté homosexuelle, il y a aussi une façon de nommer les choses, une façon de parler, une façon de se représenter. À la fois, le choix des visuels a été finalement aussi orienté par rapport à cette approche-là. Se dire comment on communique efficacement auprès de la population homosexuelle avec une affiche où les gens pourront se reconnaître. Bien évidemment, quand je dis cela, je prends bien soin de faire remarquer que la communauté homosexuelle n'est pas non plus une communauté homogène, qui a aussi donc une forme d'hétérogénéité. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on s'adressait au public que nous rencontrons dans nos actions. Et c'est auprès de ce public qu'on avait posé des questions sur les demandes, sur les besoins. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en termes de communication? Il y avait une flopée d'informations qui sont remontées. Même si nous savions qu'il fallait agir sur les pratiques, mais encore une fois, quel type d'informations il fallait faire passer, quel type d'informations donner. On avait fait le pari de se dire qu'il faut construire un outil qui remet le préservatif à sa place, mais le combiner avec le dépistage répété et éventuellement s'assurer de l'accès au traitement tout en expliquant aussi le rôle du traitement, qui n'était pas forcément un traitement pour rester en vie, pour les personnes séropositives, mais aussi un outil de prévention. On s'est rendu compte, dans la communauté africaine, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout au courant du traitement post-exposition, ce qu'on appelle le traitement à prendre avant 48 heures. On s'est rendu compte que dans toute la population des personnes rencontrées, il y avait des notions qui échappaient, notamment sur la séroconversion. Il y avait beaucoup d'informations à passer, mais il y avait aussi une volonté de se dire, si on tient tel discours, comment on construit les éléments de compréhension pour que ça fasse sens. La communauté qui était mobilisée autour de ce projet, on fait d'abord un choix de se dire on ne veut pas parler du sexe de manière négative. On veut plutôt parler du sexe qui est d'abord un acte de plaisir. Donc utiliser plutôt un slogan, d'où cette partie « Vive le sexe », mais derrière, c'est « Vive le sexe » si on a une sexualité qui prend en compte les pratiques à risque qu'on a et voir comment on réduit ces risques à travers la compréhension qu'on peut avoir sur le discours autour de la prévention combinée, pourquoi répéter le dépistage, quand il faut faire le dépistage et quel est le rôle du traitement et les réflexes à avoir quand on a pris un risque. Ces thèmes répondaient tout simplement aux besoins des communautés dans une démarche non plus descendante, mais plutôt ascendante. Donc on est parti sur les besoins des personnes sur le terrain, leurs attentes, on a mis en place un groupe de travail pour élaborer la plaquette. Comme je vous ai dit, c'est une plaquette qui aborde plusieurs sujets. Il a été question, le choix était de se dire, d'abord la communauté intègre le fait qu'on vit sous une pression virale avec une prévalence importante. Premier point. Deuxième point, aborder la notion de la charge virale communautaire, ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt des personnes sur les plans individuels et comment cet intérêt agit aussi sur les plans collectifs? On a voulu aborder aussi cette période de la primo-infection pour que les gens puissent aussi avoir de réflexes de se dire « Tiens, j'ai pris un risque. Pendant ce laps de temps, j'ai telle réaction à avoir. Soit je file aux urgences ou effectivement, j'ai fait un dépistage pour savoir où j'en suis. » L'idée derrière, par rapport au traitement, c'est de dire « Plutôt on sait, plutôt d'abord on prend des précautions, L'idée qui consiste à dire que les personnes qui découvrent la séropositivité sont indifférentes, ce n'est pas en tout cas ce que nous avons comme écho, ça a été dit tout à l'heure, dans d'autres expériences, c'est souvent un pourcentage assez infime. Souvent, les personnes changent de comportement quand ils apprennent qu'ils ont été infectés. Donc, on avait fait aussi les paris que les gens puissent repérer tout simplement ces moments où on prend un risque, ce qu'il y a à faire comme démarche et le réflexe qu'il faut avoir par la suite dans ces rapports. Encore une fois, dans le souci de consensus, on a voulu aussi réintégrer la capote comme outil de base de prévention, parce que le but aussi de cette campagne, ce n'est pas forcément de décourager les gens par rapport à la capote, mais d'encourager les personnes qui sont à l'aise avec cet outil-là. Ceux qui ne sont pas à l'aise, bien évidemment, on les accompagne vers un processus qui peut être long, mais aussi dans la manière dont on accueille les personnes. On reste non pas seulement sur une relation d'aide où on écoute les personnes par rapport à ces pratiques à risque, mais on oriente aussi des échanges autour des possibilités de pouvoir changer ces pratiques. C'est-à-dire, on est passé tout simplement de l'entretien où on écoute la personne, mais aussi vers un entretien motivationnel. Comment la personne envisage effectivement de prendre en compte sa sexualité. Dans la méthodologie, donc, on a commencé par solliciter le réseau Aide. On a un réseau qui est un réseau national assez important, avec des listes de diffusion, d'échanges. On a mis en place un groupe de travail pour identifier les besoins et en faire l'ancêtèse. Construire des illustrations sur lesquelles la communauté se reconnaissait et le faire valider. Nous étions en 2011, nous avons eu l'opportunité lors des universités des personnes homosexuelles qui s'étaient à Marseille tous les ans de le tester et de le faire valider par le public qui était là, si ça leur parlait, si c'était une campagne qui répondait plus ou moins aux questions que se posait la communauté. Cette campagne a aussi eu une opportunité. Au mois de sa lancement en 91, nous étions dans le lancement aussi des campagnes de tests rapides à aide. On venait donc d'avoir l'agrément, la loi était modifiée. On est passé d'un discours préventif qui n'était plus un discours où on tenait un discours et on orientait les personnes, mais on est rentré dans une démarche concrète où l'entretien passé à travers l'action qui était proposée, on parlait des pratiques et on pouvait proposer à la personne un dépistage rapide sur place, à la fois dans les accueils de aide, dans nos locaux, mais aussi dans des lieux de vie où on intervient au quotidien. On a repris finalement donc le même slogan, ce qui est important, ce qu'il disait, ce n'était pas forcément la campagne en soi, c'était les messages qu'il y avait derrière. Puisque, étant une association généraliste, on passe un message pour, même si le projet émanait de la communauté gay, mais il y a toujours une déclinaison vers l'ensemble de populations qui fréquentent des actions de aide, parce que aide est devenue avec le temps une association généraliste, donc qui regroupe plusieurs populations. L'impact s'est fait remarquer d'abord à travers les entretiens. Une grille de questionnaires a été mise en place, qui reprennent un peu les différents messages passés dans la campagne, à la fois pour aborder les pratiques des personnes, l'usage du préservatif, le nombre de dépistages, vous avez regardé dans le passé ou pas. On questionnait aussi les IST, s'il y a le réflexe, aussi les phases de dépistage dans ce contexte-là. On peut aborder aussi là où les personnes en sont avec les hépatites. Donc, bref, c'est un moment d'action où on ne se focalise pas que sur le VIH, mais on s'oriente vers une vision qui est celle de la santé sexuelle. Comment une personne prend soin de sa santé sexuelle au quotidien et par rapport à ses pratiques. Au niveau de l'accueil, comme je disais, la communauté n'est pas homogène. Il y a eu des interrogations sur l'ensemble de messages qui paraissaient un peu incompréhensible pour tout public, certes, mais dans l'ensemble, la population s'est reconnue à travers les visuels, à travers les préoccupations, à travers les questions qu'on pouvait se poser et les besoins d'information qu'on avait. On a questionné la communauté homosexuelle africaine, qui jusque-là n'était pas visible, en tout cas sur le sol français, pour une simple raison. L'approche communautaire est toujours vécue parfois dans un pays comme la France, qui est une république une et indivisible, comme une forme de communautarisme. À travers les actions Troll, par exemple, ce qui nous a permis aussi, mais qui reste pour nous en tout cas une valeur ajoutée, c'est avec l'approche communautaire où on échange avec les personnes autour des pratiques, que le préservatif n'est plus l'outil central, mais en tout cas la personne, ça nous permet auprès des personnes de savoir, dans leur pratique quotidienne, une personne migrante avec une vision parfois de l'épidémie qui est hétérosexuelle, on a fini par se rendre compte qu'il y avait des personnes qui étaient homosexuelles qu'il fallait prendre en compte dans nos campagnes. Alors bien évidemment, l'accueil sur le message de fond a été positif, et bien évidemment, sur les visuels, c'est tout à fait normal. Ils trouvaient que c'était un peu trop blanc homosexuel, ils ne se reconnaissaient pas. Pour les migrants, on a adopté une autre stratégie. Donc encore une fois, ce qui était important, c'était le message du fond, pas forcément le visuel en soi ou la campagne en soi. C'était le message. Est-ce qu'ils avaient intégré qu'on était passé dans un concept d'une prévention combinant plusieurs outils et quel était leur degré de compréhension par rapport à cette campagne-là et par rapport à ces discours? Mais là aussi, nous sommes revenus tout simplement aux fondamentaux dans les communautés africaines, comment ça fonctionne. On raconte des histoires, on crée des outils qui parlent aux personnes. La lutte contre le sida au jour d'aujourd'hui, ce sont plus les femmes migrantes qui sont très touchées. Et dans la mobilisation, ce sont aussi les femmes qui se mobilisent le plus. Donc on a construit des messages de prévention portés par des femmes. On a élaboré une vidéo cassette avec des scénettes et le groupe des femmes qui ont travaillé sur ce projet, qui sont des partenaires dans le cadre d'un réseau qui a été mis en place en France, le réseau d'associations africaines et caribéennes, partenaires d'aide, on a construit avec leur aval le type de message qu'ils voulaient faire passer, notamment sur les rapports multipartenariaux pour les hommes, d'une part. On a abordé un autre message autour d'une sexualité selon les âges, parce qu'on se rend compte aussi que dans la communauté africaine en Europe, il y a beaucoup de séparations, et le moment de refaire sa vie, quand on a été marié à l'époque où le VIH était plus ou moins abordé comme danger, les personnes se sentaient plus ou moins en danger. Aujourd'hui en France, on voit une recrudescence d'une épidémie qui touche les femmes entre 40 et 50 ans. Donc pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour attraper le sida. Avec les femmes, on a fait aussi le pari de se dire... Souvent, quand on parle du sida chez les migrants, on se focalise sur les enjeux de droit, ce qui n'est pas négligeable. Les gens ont besoin, à un moment donné, d'accéder aux soins, d'accéder aux droits sociaux, travailler, fonder une famille. Mais parfois, on a complètement oublié que les migrants avaient aussi une sexualité et qu'il fallait en parler. Et au-delà de la sexualité des migrants en général, il y avait aussi la sexualité des femmes migrantes, qui n'était pas forcément non plus une sexualité figée, qui avait aussi la recherche du plaisir, qu'on pouvait aussi avoir plusieurs partenaires hommes. Voilà. C'était audacieux, mais c'est une façon de se dire, on sort d'un discours désincarné, on se pose, on échange. Cela nécessite pour les acteurs qui accompagnent ce genre d'entretien d'être au clair eux-mêmes par rapport à leur capacité à parler sexualité. C'est très facile de s'immiscer dans la vie intime des autres quand on n'est pas en capacité de parler de sa propre pratique aussi. L'acteur de réduction des risques est devenu compliqué un peu dans ce contexte-là. On n'est plus dans la distribution tout simplement des objets gel, capote, flyers, on se pose. L'intérêt, c'est de savoir comment communiquer par rapport à quelle pratique à risque, qu'est-ce qu'on cible et comment on communique, comment on adapte le message par rapport à la personne, par rapport à sa vie réelle. Sur la prévention combinée, puisqu'il y avait aussi là beaucoup d'informations à faire passer, on a fait le choix d'un roman photo. J'entends souvent, même dans la communauté migrante, c'est pas la peine d'écrire des tas de plaquettes pour les migrants, ils lisent jamais. Mais on a constaté que quand on intervient dans les salons de coiffure, les tresses africaines, ça dure une plombe. Pendant qu'on attend de finir sa coiffure, ben, les personnes lisent des magazines. Et nous nous sommes dit, élaborer des romans photo, ça sera aussi une façon pour les personnes de pouvoir lire une histoire romancée qui aborde le VIH, qui aborde le dépistage, qui aborde les pratiques à risque, qui aborde le métissage. Aussi, les migrants ne vivent pas en vase clos, ne se marient pas toujours entre eux aussi. Et on a aussi voulu aborder, c'était, je crois, le premier outil où on a fait tomber un peu le barrière pour parler de l'homosexualité, dans un outil grand public qu'on distribue largement à travers les commerces en France. Donc, je vous ai amené quelques romans photos, vous pourrez jeter un coup d'œil. Le retour qu'on a aujourd'hui par rapport aux années antérieures, à la fois sur le sida, à la fois sur l'homosexualité, c'est que le débat commence à se poser. Même si on traverse en France aujourd'hui un débat assez difficile avec le mariage pour tous, après tout, les gens ont le droit d'avoir les opinions qui sont les leurs, mais en tout cas, on voit, on fait un travail important. Ce travail important s'incarne d'autant plus au jour d'aujourd'hui. On accompagne beaucoup de jeunes issus de la migration, nés ici ou là-bas. D'ailleurs, beaucoup se sont désinhibés pendant les débats, qui pensaient que finalement, une société qui débat, c'est ce qui dépasse un peu ces divergences, et qui ont fait leur propre coming out, mais qui se retrouvent aujourd'hui rejetés parce que le parent pense encore, il suffirait d'amener le petit chien pasteur, on pourra guérir cette maladie, entre guillemets. La problématique, elle est là. On est obligé, nous, acteurs de prévention, aussi d'être au cœur de ces jeunes, là où se jouent souvent de jeunes de 17-18 ans, qui découvrent leur sexualité, qui ont une sexualité homosexuelle, et qui n'ont pas forcément des connaissances approfondies sur le mode de transmission du VIH. On a beaucoup de débats dans la communauté, ce n'est pas évident, mais en tout cas, on a voulu faire le pari aussi. La prévention combinée pour nous avec cette approche, c'est celle-là. On parle de pratique, on ne reste pas dans un discours désincarné ou théorique. On sait de quoi on parle, on sait quelle est la vraie vie des personnes au quotidien, quels sont les risques, les difficultés d'utiliser le préservatif dans la durée, les difficultés parfois à faire des démarches de dépistage répétées quand on est une femme mariée, les accueils d'aide aujourd'hui quand on fait des permanences en santé sexuelle. On n'a pas que le public homosexuel qui vient, on a aussi un public hétérosexuel, blanc ou migrant, qui ont fini par identifier aide comme un espace où on peut se faire dépister. Certes, en 5, 10, 15 minutes, mais où on peut aussi parler de ses besoins. Voilà le type de campagne qui accompagnait nos messages dans le passé. Des campagnes qui étaient tournées autour de la peur. Des campagnes parfois qui avaient un côté moraliste. Nous savons qu'en matière de prévention, la peur ne marche pas, sinon on le saura. La morale non plus ne marche pas. Donc faire peur sur ce type de campagne, mais nous ne le ferons plus jamais parce que nous avons appris des leçons. L'objet du désir, parler d'une campagne de réduction des risques en mettant en avant aussi des affiches pour dire de quoi on parle, parler du plaisir, parler du choix de préservatif, d'autres les aiment plutôt fluo, d'autres le préfèrent avec des saveurs. Donner aux gens le plaisir de pouvoir intégrer la capote comme un outil dans les préliminaires, un outil qu'on utilise au quotidien pour les personnes qui sont à l'aise avec cet outil-là. Et une autre leçon qu'on a retenue, c'était toute la notion à la fois du plaisir, mais aussi de l'intérêt de rester en bonne santé, notamment en bonne santé sexuelle, pour continuer à prendre du plaisir. Au niveau de l'évaluation, j'ai juste extirpé quelques chiffres parce que je n'avais pas forcément l'autorisation de présenter cette enquête de satisfaction qu'on a menée il n'y a pas longtemps, qui sera présentée donc en prime time à la rencontre de la Société française de lutte contre le sida, la SFLS, le 23 et le 24 octobre. Mais c'est une enquête où on a questionné le public qui vient à aide, à la fois sur le message, l'accueil, l'entretien, la proposition de dépistage, le soutien, l'accompagnement. J'ai pris des éléments sur les populations cibles, prioritaires, qui sont des côtés les gays et de l'autre les migrants. Donc vous voyez, des choses qui ressortent, notamment dans les cadres des entretiens, c'est les besoins des personnes, le sujet qu'on aborde le plus avec aisance et le sujet dont les personnes voudraient avoir un peu plus d'informations. Avant de nous quitter ou de passer à des échanges, voilà, je vous ai proposé cette réflexion de Daniel Defer qui remonte à bien longtemps, où il disait « Si on fait de la sexualité protégée une idéologie officielle et non à nouveau l'objet d'un débat sur la sexualité, on risque d'imposer un nouveau silence sur la vérité des pratiques sexuelles aujourd'hui. On risque de mauvaises surprises à court terme si on transforme le safe-sex en langue de bois militante. Parler des pratiques, c'est aussi aborder tout ce qui se passe dans l'environnement gay, notamment sur l'usage de produits. Nous n'aurions pas été alertés sur l'usage de produits par voie intraveineuse dans un cadre sexuel ou festif, dans le milieu gay, si on n'était pas en capacité de mettre les gens en confiance pour pouvoir échanger librement. Merci.